19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour, bonjour chers amis auditeurs, merci d'être avec nous, c'est parti, vous le savez, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs, on commente, on décrypte et on analyse l'actualité. Alors chers amis, en ce jeudi, eh bien, vous savez quoi, je vous ai concocté tout d'abord une petite interview avec une ancienne maire adjointe de la ville de Nanterre, mais surtout aujourd'hui, elle représente la Ligue des droits de l'homme. Elle s'appelle Habiba. Habiba, justement, Big Dad, qui sera avec nous dans une poignée de minutes pour nous parler, vous savez quoi, d'un sujet qui nous concerne. C'est le droit de vote des femmes et, justement, ça concerne les élections locales. Oui, vaste sujet. On va en parler dans une poignée de minutes. Ensuite, nous parlerons, vous savez, des sujets qui ont touché aujourd'hui, eh bien, notre attention. On reviendra sur cette déclaration, la violence des mineurs. Gabriel Attal, le Premier ministre, qui a fait beaucoup d'annonces, mais qui tape beaucoup aussi sur les parents et qui alerte les parents surtout. Et surtout, vous savez quoi? Et nous, on en parlera tout à l'heure et on commentera ce sujet d'actualité. Nous parlerons aussi, vous savez quoi? Eh bien, de la conférence Mélenchon-Hassan Rahima avec LFI qui est en, vous savez quoi, avec le ton qui monte justement entre le PS et LFI. Et puis enfin, l'attaque de l'Iran au Proche-Orient, en Israël plus précisément, le Hamas qui juge légitime et mérité l'attaque de l'Iran. Bon, et puis Israël qui n'exclut pas, vous savez, de riposter. 01 53 48 3000, ça c'est votre numéro de station. Vous nous appelez et en toute liberté d'expression. Et on parlera aussi, vous savez, tout à l'heure du billet d'humeur, le quoi de neuf avec Pascal Boniface à 19h50. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Habiba Big Dad. Bonjour Habiba Big Dad.
Bonjour Adil.
Comment ça va? Vous allez bien?
Ça va très très bien, je vous remercie.
Ancien maire de la ville de Nanterre, mais aujourd'hui vous représentez la Ligue des droits de l'homme. Alors justement, vous allez nous parler d'un événement qui se déroule très prochainement ici sur la région du 92, me semble-t-il. Et nous allons parler avec vous, vous savez quoi, de ce qui touche beaucoup, c'est-à-dire le droit de vote des femmes et au droit de vote des résidents aux élections locales. Alors, ça se passe le 27 avril, de 9h à 17h. Parlez-nous-en, justement.
Oui, merci, Adil. Donc, en fait, c'est dans le cadre de la Journée internationale du droit de vote des résidents. On organise plusieurs événements. Donc, la date choisie, c'est le 26 avril. C'est la 4e édition. Pourquoi on a choisi le 26 avril? Parce que c'est la journée, il y a maintenant 110 ans, où les femmes se sont réunies en 1914 oui. pour organiser une grande votation pour le droit de vote des femmes. Et c'est devenu un symbole partout en Europe, pas que en France, un symbole de la lutte pour l'acquisition du droit, l'acquisition de la citoyenneté. Et donc, cette année, nous allons avoir plusieurs activistes de toute l'Europe qui vont venir et se rendre à Paris pour célébrer cette journée internationale où il y aura plusieurs événements, dont un colloque le 27 avril au Palais de Luxembourg.
Au Palais de Luxembourg, justement, je disais dans le 92, mais non, c'est pas du tout dans le 92, je sais pas pourquoi, je me suis fixé comme, évidemment, comme adresse le 92, non, c'est au Palais de Luxembourg, parce que, rappelons-le quand même, c'est sous le haut patronage du sénateur Hakim Elouli, hein.
Oui, tout à fait. C'est Hakim Elouli, sénateur du Val-de-Marne, qui nous accueille donc au Palais du Luxembourg. Et pendant toute cette journée, en fait, pendant cette journée au Palais du Luxembourg, on aura deux demi-journées où on va traiter donc du droit de vote des résidents, dont on parle déjà depuis plus de 40 ans, et aussi de toute cette démarche historique des droits des femmes pour obtenir le droit de vote. Et en fait, parce on fait que, un parallèle.
Oui, parce que vous dites « j'y suis, j'y vote hein, », c'est un clin d'œil, hein.
Alors, le collectif qui organise en fait le colloque et ces événements s'appelle J'y suis, j'y vote. Donc, il y a un collectif français qui existe depuis plus de 30 ans. Il a eu plusieurs noms différents, votation citoyenne, droit de vote 2014, il y a eu plusieurs noms, et il a récupéré son premier nom, qui est J'y suis, j'y vote, qui regroupe un certain nombre d'associations de défense des droits, aussi des associations de travailleurs, comme on disait à l'époque, immigrés, et aussi des syndicats. Donc l'idée, c'est de pouvoir porter cette revendication de démocratie, en fait, et de citoyenneté, pour que les personnes qui, aujourd'hui, certes, ne sont pas de nationalité française, puissent participer à la vie locale, notamment aux élections municipales. Chose que d'autres étrangers, dits communautaires, donc de la communauté européenne, ont le droit, eux, juste après 3 mois de résidence en France.
Raison de le rappeler, effectivement, ce colloque qui se déroulera au Sénat, rappelons-le, de 9h à 17h, à noter hein, le 22, hein, attends, le pardon, s'inscrire. Le 20, il faut s'inscrire où précisément?
Alors, il y a un lien Frama pour pouvoir s'inscrire, on peut le retrouver sur le compte Twitter de J'y suis, j'y vote, et sur le compte Facebook de J'y suis, j'y vote, mais aussi sur un certain nombre d'articles de sites internet de la Ligue des droits de l'homme, du MRAP, de ATTAC, de la SPCR et d'autres membres du collectif.
Alors ça se passe le 26 avril à Paris, donc au Sénat. Dites-nous justement, Habiba Bigdad, il va y avoir beaucoup de personnalités qui vont intervenir durant cette journée.
Alors effectivement, donc on va avoir une introduction de 2 parlementaires, donc Hakim Elouli, sénateur qui nous accueille, mais aussi Daniel Obono qui est député. L'idée, c'est de pouvoir aussi, à travers cet événement, interpeller les parlementaires qui sont un peu les décisionnaires pour ce nouveau droit, puisque aujourd'hui on devrait avoir un changement de la Constitution pour pouvoir avoir le droit de vote des résidents. Et là, il faut mobiliser l'ensemble des députés, l'ensemble des sénateurs, quels que soient les partis, pour pouvoir recueillir 3/5 en fait des 2 assemblées. Donc on aura donc les parlementaires qui viendront introduire cette journée, mais toute la journée on aura bien sûr des membres des collectifs européens, britanniques, allemands, belges. On aura aussi Catherine Bittel de Venden, qui est professeure au CNRS, qui travaille sur cette question là depuis plusieurs années. On va avoir aussi Jean-Daniel Lévy de la société de sondage Harris Interactive, qui nous suit depuis plus de 10 ans sur cette question, puisque chaque année on sort un sondage par rapport à l'opinion publique sur cette question. L'année dernière, le dernier sondage qu'on a fait, c'était en février 2023, 68% de la population est favorable. Donc je veux dire que la population a dépassé les politiques sur cette question-là, et d'où nous notre constante mobilisation sur le terrain, et puis convaincre du coup les responsables politiques pour pouvoir passer à une autre étape dans l'ouverture de la démocratie. On a pu obtenir le droit de vote pour les femmes, on a pu réduire à 18 ans la majorité pour pouvoir voter. Aujourd'hui, il faut aller plus loin encore pour ouvrir ce droit de vote, non seulement donc aux résidents étrangers européens, mais aussi à tous les autres résidents.
Il y a un enjeu concernant cette journée, j'imagine, un objectif pour vous, Habiba Bigdad?
Oui, nous, notre objectif, c'est que tout le monde puisse se saisir de cette question, que tout le monde puisse avoir les arguments pour pouvoir convaincre les politiques. Parce qu'aujourd'hui, certains sont pour, mais ne savent pas forcément pourquoi. Certains sont contre, mais sans trop savoir pourquoi. Et l'idée, c'est que de pouvoir faire confronter les arguments, les idées, et de voir ce qui se passe en dehors de la France. C'est une question de citoyenneté, de démocratie, qui se passe en dehors de la France. Et aujourd'hui, France, pays des droits de l'homme, on ne peut pas être encore à la remorque sur ces questions-là.
Une déambulation est prévue, dites-moi, Habiba, justement.
Oui. Hein, c'est... Il y a 3 événements. Donc, il y a le 26, donc la journée internationale, où à Paris, à Amiens, à Bruxelles, à Berlin, va y avoir des votations citoyennes, donc toute la journée. On a le colloque le lendemain, le samedi 27 avril, et le surlendemain, donc le dimanche 28 avril, il y aura une déambulation à Paris sur les sites historiques des votations des femmes de 1914.
Bon, bah écoutez, c'est bien de nous le rappeler en tout cas. Plein de bonnes choses pour vous, Habiba Bigdad, qui organisait donc cet événement du droit de vote des femmes au droit de vote des résidents aux élections locales. On peut toujours s'inscrire ou pas? Oui, hein, j'imagine.
Sûr.
Oui.
Bien sûr, le plus tôt possible, puisqu'on va falloir remettre la liste des participants au Sénat.
Rappelez-nous l'adresse d'inscription.
Alors, l'adresse, vous pouvez la trouver sur le site internet de J'y suis, j'y vote, sur la page Facebook de J'y suis, j'y vote, sur le compte Twitter de J'y suis, j'y vote, mais aussi sur les à la Ligue des droits de l'homme, sur le site de la Ligue des droits de l'homme, et aussi sur mon site, sur ma page Facebook et mon compte Twitter, Habiba Bigdad.
Eh bien, merci pour toutes ces infos. Merci et bon courage à vous. Ça se passe, ne manquez pas ce rendez-vous samedi 27 avril de 9h à 17h et puis tous les autres jours qu'elle vient de citer. Habiba Bigdad, merci et bonne soirée à vous et surtout bon courage. Hein.
Merci Adil Farkan.
Merci, à très bientôt, 19h10. Le face-à-face, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Avec autour de ce plateau, vous savez quoi, Pierre-Henri. Bonjour Pierre-Henri, comment ça va?
Bonjour Adil Farkan, ça va?
Très bien, merci infiniment, merci d'être avec nous, le patron de France Fraternité. Comment se porte France Fraternité?
Oh, plutôt ouais. Bien. Et j'ai envie de dire hélas, parce que, évidemment, la solidarité et la fraternité sont au rendez-vous de parcours tumultueux et d'une certaine manière de la pauvreté et de la misère.
Oui, vous l'avez bien dit. Europe Ecologie Les Verts, représenté par pour le département du 95 par Abdeslam Itaj. Bonsoir.
Bonsoir Adil.
Comment ça va?
Très bien, merci. Toujours ravi d'être là.
Eh bien, écoutez, partagez. Nous sommes aussi avec Hassan Barek. Bonsoir Hassan.
Bonsoir Adil.
Rappelez-nous votre président du l'association.
Absolument. Une fédération d'associations
dans les quartiers populaires.
Dans les quartiers.
Absolument. Le porte-parole du mouvement MDC, comment ça va, monsieur Gamal Abina?
Très bien, et vous?
Tout va bien?
Comme d'habitude,
vous retrouvez votre chocolat là, ça vous fait plaisir?
Très très bon, ça fait du bien. Ça
fait du bien, hein?
Ça rappelle les bons souvenirs.
C'est le chocolat, vous, hein? Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir?
Olé.
Qu'est-ce que ça rappelle comme souvenir?
Ça renvoie à l'adolescence, à l'enfance, à beaucoup de choses.
On en a besoin,
hein?
Oui, vous avez raison. Qu'est-ce qui vous fait sourire, vous, Pierre-Henri?
Ça reste un chocolat assez banal. Hein.
Oui, tout à fait.
Je suis sûr qu'il aime bien les chocolats de marque.
Ouais.
Non, j'aime pas le chocolat en général, que le lait au chocolat, c'est
très. Ah, que le lait au chocolat. Ouais. En fait, c'est le lait.
C'est plus le lait que le chocolat.
Bah voilà,
absolument.
Messieurs,
ça c'est une information vraiment très importante.
Essentielle, sinon on n'avance pas.
Parlons tiens de sursaut d'autorité, justement la violence des mineurs. Il a décliné toute une série d'annonces, le Premier ministre, M. Gabriel Attal, et il s'est adressé surtout aux parents. Aux parents, les parents démissionnaires. Vous savez quoi? Il a beaucoup parlé des parents, il a parlé aussi des élèves perturbateurs. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce discours? Et fallait-il s'adresser essentiellement et beaucoup aux parents? Parce que là, évidemment, responsabiliser les parents démissionnaires. Pierre-Henri, que doit-on comprendre?
D'abord, je voudrais rappeler...
Et ils nous écoutent, les parents.
Oui, je voudrais rappeler aux auditeurs que le nombre de lycéens et de collégiens, c'est un peu plus de 6 millions en France. Le nombre de lycées, c'est un peu plus de 10 500. Et que, de fait... Il y a environ 1% des établissements scolaires qui sont frappés par une certaine violence qui est d'ailleurs totalement inacceptable. Mais il ne faut pas faire passer des faits divers pour des faits de société. En réalité, c'est ce que fait en permanence l'extrême droite et un certain nombre de médias conservateurs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai écouté le Premier ministre et j'ai écouté son catalogue qu'il a bien voulu égrener pendant 40 minutes en parlant de sanctions. Mais enfin, je rappelle que l'école, c'est l'instruction. La famille, c'est l'éducation, et que punir, c'est parfois nécessaire, mais il faut aussi prévenir. Et pour prévenir, il faut mettre tout le monde autour de la table. Il faut mettre les professeurs, donc l'institution scolaire. Il faut mettre les parents, bien évidemment. Il faut mettre l'aide sociale à l'enfance. Il faut mettre la justice pour trouver une bonne réponse. Puis enfin, il y a quelque chose qui m'a un peu fait rire, parce que il dit « Je veux que dorénavant, les perturbateurs, on marque sur leur brevet, leur CAP, leur bac, voire sur Parcoursup, fauteur de troubles. » Mais enfin... le Premier ministre n'a jamais mis le nez, les pieds dans la vraie vie. Parce que la vraie vie, elle se charge de polir le parcours des perturbateurs. Et il faut plutôt les féliciter, ces perturbateurs, d'avoir eu enfin leur diplôme, et puis de pouvoir poursuivre leur parcours. Absolument. Et moi, ça, véritablement, je dis, ben, c'est de la bêtise en barre.
Eh ben, on continue d'en parler justement, et je voudrais qu'on revienne sur le fait de responsabiliser les parents démissionnaires. Ça aussi, est-ce que vraiment fallait-il
Parler des familles monoparentales, etc.
On marque une pause et on se retrouve tout de suite après, justement, et on continue le tour de table. À tout de suite. Et si vous...
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés avec Pierre-Henri, avec Abdeslamitash, avec Hassan Barek et enfin avec Gamal Abina. Tiens, je vous donne la parole, Abdeslamitash, justement, est-ce que il fallait rappeler ce sursaut d'autorité en permanence aujourd'hui, et notamment pointer du doigt les parents. Est-ce que les parents sont aussi responsables et qu'il y a ce rappel d'autorité et que ces parents restent aujourd'hui démissionnaires?
Oui, enfin, je pense que c'est plus une épreuve de force du gouvernement que de montrer un peu ses muscles et prétendre qu'ils sont un petit peu dans la répression.
Peut-être qu'il y a des parents
et qu'ils sont en mesure
possible,
de le faire, mais d'abord, les syndicats ne sont pas du tout d'accord avec ce type de méthode. Ça manque de concertation et en effet, le Premier ministre a besoin de montrer qu'il sait aussi être autoritaire pour pas être débordé et dépassé par ses ministres, et entre lui et le président de la République, il a besoin de montrer aussi ses muscles et prouver qu'il est capable d'appuyer sur le bouton nucléaire. Vous voyez, on a deux personnes qui sont en quête justement d'affirmation. Et en effet, moi, je rejoins Pierre-Henri sur plusieurs points. En effet, aujourd'hui, la place des parents est essentielle, elle est incontournable, elle est déterminante.
Est-ce qu'ils sont démissionnaires
dans l'éducation des enfants? Ils sont.
Est-ce qu'ils sont défaillants?
Ils sont aussi.
Est-ce qu'ils sont dépassés?
En difficulté. Et les familles monoparentales, quand on est une maman, quand on élève trois enfants, eh bien, on peut quand même reconnaître qu'on peut être dans la difficulté. Aujourd'hui, on voit bien la difficulté à remplir le frigo, c'est aussi c'est un vrai problème. Et malheureusement, assez souvent, la variable d'ajustement, bah, c'est le sport, c'est le loisir. Et on se retrouve avec des enfants qui parfois traînent plutôt que d'être à leur cours de judo ou de lutte. Et c'est bien ça le problème. Ou alors, au tennis. Alors, c'est tennis de table. Et vous voyez, et c'est bien ça le problème. C'est que assez souvent, on incrimine les parents, on leur reproche beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de parents démissionnaires. En effet, ça arrive également. Mais vous savez, il y a le facteur environnemental qui joue énormément. Et lorsque l'on est comme ça, dans une situation de difficulté, la difficulté amène la difficulté, la paupérisation des quartiers, ou lorsqu'une personne réussit, bah, elle quitte le quartier, la personne qui revient, qui arrive, elle est... plus en difficulté que la personne qui l'a quitté. Les établissements scolaires accumulent les difficultés. On préfère mettre de l'argent, et vous savez que les collectivités donnent de l'argent aux établissements privés, malheureusement pas assez dans le public, et c'est bien le drame aujourd'hui. On a un système scolaire qui a échoué, et on préfère montrer les autres en disant vous avez fauté, plutôt que de se dire faire son mea culpa et admettre qu'il n'y a pas assez d'argent investi dans l'éducation.
Alors Gamal Abina, justement, parce que le Premier ministre Gabriel Attal, il dit quand même, hein, il appelle à réprimer les plus largement et plus sévèrement, donc là il fait référence aux parents, les parents sont défaillants, les parents sont dépassés, est-ce que c'est aussi, parfois aussi une réalité?
Là je vais commencer à m'énerver parce qu'il y en a ras-le-bol de ces sales discours d'extrême droite qui sont partout dans la société. On va commencer par premier élément. Premier ministre qui parle à la place du ministre de l'Éducation nationale. Ça veut dire quoi, ce ministère? Il est Premier ministre, il doit gérer les ministres et pas s'occuper des ministères qui lui sont sous sa dépendance. Première chose. Deuxième chose, monsieur n'a pas été à l'école publique.
Il est fort, Gamal Abina.
Non, mais il faut être très clair, il faut savoir qui nous parle. Il n'a pas été à l'école publique, mais privée. Bon, genre, donne pas trop de leçons, c'est pas ce qui se passe dans le public, encore moins dans le 93 ou le 94 ou les banlieues défavorisées. Troisième chose, il n'est même pas parent, ce monsieur. Donc il parle de choses dont il ne sait rien. Et maintenant, on va aller sur le sujet qui nous intéresse. Il a osé proposer des propositions fantaisistes. je viens d'entendre un truc hallucinant. Monsieur veut faire un casier judiciaire scolaire. On n'a jamais vu ça. Quelqu'un fait une bêtise et quand il a 6 ans, ben, à son bac, ce sera noté. Vous vous rendez compte le délire un peu? Cette façon de sanctionner à vie, quasiment, c'est le marqueur rouge.
Assigné à résidence, non?
Oui, ouais, quasiment.
Discipline pour les primaires.
Ensuite, juste, j'avance parce que ça va être intéressant. J'ai quand même fait une petite vérification. Parce que cette histoire, le parent démissionnaire, je vais dans, souvent dans le média, et cette bêtise revient en permanence. Alors, on a fait quelques petites études. Certains ont fait le travail, des gens, des acteurs de terrain que je connais d'ailleurs. Ils ont fait une étude sur 518 familles, d'accord ? Et ils se sont rendus compte que pour 94% des parents, il n'y a aucune démission, mais une implication totale. Alors que les conditions...
C'est intéressant.
Mais il n'y a pas de statistiques. On balance une rumeur crasseuse, ça a été dit par Pierre-Henri tout à l'heure. On part de vulgaires petits incidents isolés qui sont des faits divers. Je veux dire, le petit Grégory qui a été tué à l'époque à la Vologne, c'était un fait divers dont on a parlé pendant des années, alors que des Grégory, il y en a 10 par an. Eh bien, on parle de cela, pourquoi ? Pour mettre la focale sur ce qu'il considère comme étant des éléments perturbateurs, souvent pauvres, souvent à la périphérie, donc l'exclusion spatiale, souvent, évidemment, parfois étrangers, mais souvent montrés du doigt. Donc tout ça pour dire qu'il y en a ras-le-bol de ces discours. Moi, quand je vois un Premier ministre qui parle d'un sujet qui n'est pas le sien et qui ne donne même pas d'éléments d'études sérieuses quand on parle de choses, et c'est là où je me pose la question sur la gauche et la droite, parce que la gauche est quand même un peu plus écabesse. Hein. Quand on parle de choses, il faut des bases, des études, des acteurs qui font le travail de terrain, il faut des professionnels qui parlent aux parents. Et les parents, ils disent quoi ? Ils disent pas qu'ils ne sont pas impliqués avec leurs enfants, ils sont impliqués à plein régime. Est-ce que vous imaginez une mère qui donne naissance à un enfant dans la douleur ? Est-ce qu'on peut imaginer que cette dame en a rien à faire de son enfant ? Si elle en a rien à faire, c'est qu'elle a un problème de santé. Et bien simplement, ils disent quoi ? On ne sait pas faire aujourd'hui.
C'est le coup de gueule de Gamal Abidine.
C'est normal, il y en a marre. C'est de la propagande d'extrême droite, c'est crasseux. Il y en a marre de voir que des gens qui ne sont pas à l'extrême droite répercutent ça. Donnez des études sérieuses, dites voilà, il y a des parents pour un pourcentage de temps, après on discute. Et je vais finir simplement pour dire Françoise Dolto a dit quoi ? Elle dit il ne faut pas de choses enfants. Vous mettez une claque à l'enfant, ça va pas. Donc les parents, ils savent plus quoi faire. Comment on éduque les enfants? Et quand ils parlent aux acteurs qui s'occupent des enfants, associatifs, et surtout le corps enseignant, et puis le corps des gens qui s'occupent de la jeunesse, la prime enfance, comment fait-on pour parler aux enfants sans les traumatiser? Voilà où on en est. Donc ils sont très impliqués, mais ils savent pas comment faire. Mais ils ne démissionnent pas, c'est un mensonge. C'est pas parce qu'on a deux, trois brebis galeuses, vous avez un élève qui fout la pagaille dans une classe, en troisième B, toute la troisième B est une classe de délinquants. Voilà ce qu'on dit aujourd'hui. Donc moi, j'en ai marre d'entendre un type qui est premier ministre, qui a un rôle essentiel, nous expliquer qu'il y a des parents démissionnaires, qu'ils donnent des statistiques.
Bon, bah écoutez, le coup de gueule, on appellera ça de Gamal Abina. Hassan Mbarek.
Je vais être court, je suis totalement d'accord avec les analyses de mes collègues autour de la table. Bon, moi, je trouve regrettable que le président de la République, M. Macron, ait donc décidé de confier au Premier ministre une mission qui est, je crois, la mise en place d'un Grenelle sur l'autorité. Donc la trame est très simple, hein, c'est d'avoir de l'autorité partout et pour tous. Et c'est au fond, il est dans la lignée un peu de la tendance générale politique aujourd'hui, où on voit que le Front National va faire un score relativement important. On essaie de s'emparer des thématiques qui font le succès du Front National.
Et pourquoi pas ?
C'est problématique.
Oui,
parce que le Front National ment.
Sauf que le petit souci, là où j'ai un petit problème sur les mesures, c'est la responsabilité des parents. Lorsqu'on sait comment ça se passe un peu dans les quartiers, dans les banlieues, les parents veulent que leurs enfants réussissent. Et les parents sont souvent dépassés par des enfants aujourd'hui où vous n'avez plus d'autorité. Alors si en plus vous avez des familles monoparentales, c'est très compliqué. Mais lorsqu'on en avait discuté la dernière fois, lorsqu'on rentre dans la cellule familiale aujourd'hui, où on dit au père, ben voilà, vous pouvez pas forcément exercer votre autorité d'une façon assez un peu patriarcale, quoi, dans un système un peu patriarcal, ben il y a des dérives. Et aujourd'hui, vous avez des gamins de 15 ans, 16 ans, ben encore il y a pas très longtemps, moi il y a quelques jours, j'ai eu un problème avec un gamin qui m'a manqué de respect. Je lui ai dit, mais attends, j'ai l'âge de ton père. Non, les types sont dans un film. Il n'y a plus de respect et aujourd'hui parce qu'il y a une démission, c'est pas que forcément il y a une démission des parents, c'est que au fond on est rentré dans la cellule familiale et on a minoré, on a marginalisé le rôle du père et ça pose de vrais problèmes aujourd'hui. Ouais. Et maintenant que les pouvoirs publics viennent en disant mais démerdez-vous, excusez-moi de dire démerdez-vous aux parents pour régler cette histoire, mais là on paye on paye une chose, un laisser-aller pendant plusieurs années.
J'irais déresponsabilisation des parents, ouais, c'est plutôt ça.
Pierre-Henri.
Oui, on voit bien que c'est un sujet, qui est marginal par le nombre, mais qui est très important et que l'on doit traiter, ensemble. On peut pas arriver comme ça sur une scène. Et puis, en réalité, annoncer une série de mesures avant même qu'une concertation entre les professionnels du secteur ait eu lieu. Et j'ajoute que oui, il y a un phénomène nouveau qui est très important et qui est celui des familles monoparentales, où la mère va être obligée de se lever le matin très tôt pour aller gagner sa vie, pour ranger les bureaux, nettoyer les bureaux, etc., sur des métiers relativement précaires, et où, évidemment, on va placer le gamin devant un portable, devant des réseaux, etc. Oui, et ensuite, on va s'étonner que le gamin soit dans une réalité virtuelle, dans un autre monde, et où la violence est quelque chose de totalement banalisé. Donc, oui, il faut des mesures, et il faut des mesures notamment avec les géants d'Internet. Parce que là, vraiment, on a un vrai souci avec les réseaux. Donc, on voit bien que c'est pas par des mesures Yaka Faucon qu'on va y arriver, parce que s'il s'agit de taper sur les familles les plus précaires, bon, bah, ça, c'est facile. Hélas, ça ne résoudra rien.
Gamal. Simplement pour dire que ce qu'il faut penser en termes, parce que moi, j'aime bien les critiques tout le temps qui arrivent, sans fondement, je le précise quand même, il n'y a pas de stats, encore une fois. C'est souvent une récupération des termes de l'extrême droite qui préfère stigmatiser, montrer du doigt plutôt que d'expliquer la situation. Ultralibéral, hein. Ils ne sont pas là pour faire de l'État, ils sont là pour faire du privé, l'extrême droite. Il faut être très clair. S'ils arrivent au pouvoir, vous allez voir ce qui va rester des hôpitaux. Mais simplement pour dire que les acteurs associatifs, quand on les connaît, les travailleurs sociaux qui font un travail extraordinaire sur le terrain, ont tous d'abord des moyens dérisoires, mais surtout, et c'est le plus important, quand il y a un problème avec un enfant, si toute la société travaille de concert avec les parents pour les accompagner, le problème est réglé assez rapidement. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Quand il y a un problème avec l'enfant, l'enfant roi, maintenant, c'est comme ça qu'on les appelle, et bien les flics, ils arrivent, laissez-le jouer avec la PlayStation. Laissez-le sortir, pourquoi vous l'emmerdez? Donc on déresponsabilise les parents, on leur a mis du dolto dans la tête, on leur a mis des méthodes, pas de gifle et tout, et normalement les parents ne savent pas quoi faire, donc effectivement, c'est pas qu'il y a une démission, c'est qu'on leur a retiré l'autorité parentale qui était naturelle, et au bout d'un moment, ils se demandent pourquoi il y a des problèmes. Et encore une fois, je précise, 94% des parents sont très impliqués. Les rares qui ont un problème, c'est effectivement les monoparentales, c'est des gens qui sont dépassés.
Abdeslamitash, et ensuite après. Hassan,
oui,
je ne vous ai pas oublié, Hassan.
Je rejoins complètement mes co-débatteurs et sur l'idée de mettre en place un conseil de discipline pour les primaires, c'est encore une fois mettre de la difficulté dans la difficulté. Vous imaginez, ça ne marche déjà pas au collège. Vous voulez mettre ça en primaire. Qu'est-ce que vous voulez prendre comme mesure? Une exclusion temporaire d'un primaire? Enfin, vous voyez bien qu'on marche sur la tête et il n'y a qu'un message, c'est un message politique envoyé à l'extrême droite pour dire, vous savez, nous aussi on sait être ferme.
On sait faire la sécurité à l'école, quoi. C'est ridicule.
Hassan Bari.
Juste pour rebondir sur ce que disait Pierre-Henri sur la responsabilité des réseaux sociaux et des grandes boîtes de l'Internet. Bon, j'étais assez surpris que le Premier ministre n'ait pas abordé la question, puisque quand même ils sont quand même responsables en partie de cet environnement autour des ados. Mmh. Et le fait que le Premier ministre et le Président de la République n'aient pas évoqué, je dirais, cette problématique, je trouve qu'il y a une déficience quelque part. Et pour revenir aussi à ce que disait Gamal, il est quand même important qu'on s'appuie, si on devait faire un travail sérieux en termes de recommandations, de propositions, qu'on s'appuie sur des études sérieuses de sociologues, des études statistiques. Et donc là, je pense que on est juste dans une posture politique qu'il s'agit de faire de l'autorité. Et le pire, c'est que, en toute honnêteté, Monsieur Attal n'incarne pas l'autorité. Oui. On voit bien, il y a un problème dans ce gouvernement avec les gens. Je veux pas être médisant, mais on voit bien que ce sont des gens, bon, pour certains, qui n'ont jamais occupé de métier, hein. Ça fait light, quoi. Et ils incarnent pas de l'autorité. Donc, tout ça, c'est pas très sérieux.
Allez, on va passer au second sujet, sauf s'il faut marquer la pause. Vous savez quoi, je veux parler aussi de la conférence Mélenchon, mais la conférence Mélenchon qui, évidemment, vous savez quoi, Rima Hassan dit la chose suivante à propos d'un éventuel recours. Mes avocats y travaillent, c'est en cours concernant, vous savez, cette fameuse conférence Mélenchon-Hassan qui a été annulée à Lille. Et figurez-vous qu'entre LFI et la gauche, c'est-à-dire le PS, eh bien, le ton est monté d'un ton supplémentaire, surtout le PS. Ils disent clairement, Mélenchon joue un jeu très dangereux. Abdeslam Itache.
Oui, en effet. Alors, moi, je vais y aller, mais alors tout droit. Je vais vous dire, le parti où il y a le plus de sionistes au mètre carré, c'est le Parti Socialiste. Donc, forcément, ils sont en confrontation directe avec un parti qui, justement, le combat. J'assume mes propos et... je le répéterai. Et c'est bien le problème. Vous savez, lorsque s'est construit la NUPES...
Ça veut dire qu'il y a un comptage. Attendez, là, il y en a un, là, il y en a un deuxième, là, il y en a trois.
Non, il suffit de voir les déclarations des leaders politiques du Parti Socialiste.
C'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est une tradition. Mais c'est au démarrage, effectivement, c'était socialiste.
Il suffit d'entendre Julien Drey, je pense.
Oui, mais c'était au départ. C'était un socialiste.
Julien Drey, Kouchner et consorts. Oui, donc, vous voyez les exemples.
Enfin, je sur quoi on s'appuie pour ça, mais bon.
Je trouve que c'est la manière la plus...
Non, mais c'est votre point de vue.
Oui, il a le droit d'avoir ce point de vue, mais je trouve que c'est la manière la plus néfaste pour aborder cette question. Ben oui, parce que si tu commences par dire, le PS est un ramassis de sionistes.
j'ai dit que c'était là où il y avait le plus de sionistes au mètre carré.
Tu dis exactement.
Tu n'es pas mon ventriloque, je te permets pas.
Tu assumes tout seul les propos, mais ça va avancer à quoi? Sur
une problématique. Le tableau, c'est celui-là. D'un parti socialiste.
Moi, ce qui m'intéresse,
complètement gangréné par le sionisme.
C'est de. Je vais te dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que une gauche responsable, humaniste, revienne au pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est la solution. C'est une solution pour le Moyen-Orient.
C'est vraiment
une solution.
Une solution à deux. De gauche ou pas,
c'est la question qui nous est posée à tous, c'est autour de la conférence avec Mélenchon et.
Eh ben, on en parle. Je prononce une pause parce qu'il faut qu'elle parte la pause. Et on se retrouve tout de suite après. Ne bougez pas, restez avec nous puisque c'est très intéressant, effectivement. Mélenchon qui joue un jeu très dangereux, disent les acteurs politiques du Parti Socialiste. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés, vous le savez, c'est toujours avec Pierre-Henri, avec Gamal Abina, avec Hassan Barak et Gamal Abina. À qui tu devais donner la parole, en fait? C'est à Gamal Abina. Non, c'était Pierre-Henri. C'est Pierre-Henri qui devait finir.
Je disais que la question que tu posais, c'est de savoir si oui ou non, Mélenchon et Rima Hassan peuvent tenir une conférence aujourd'hui en France à l'université sur la question israélo-palestinienne.
Et pourquoi pas ?
Et ben moi, je réponds oui, bien entendu, même si on a des divergences. Et moi, j'en ai beaucoup avec Mélenchon et avec Rima Hassan. Mais je ne pense pas que ça soit la bonne solution d'interdire le débat. Il faut qu'on puisse avancer et purger un certain nombre de choses sur ces questions qui sont extrêmement difficiles et qui sont hélas aujourd'hui, pour une part, importées dans la société française.
C'est surtout une obstruction à l'expression politique dans le cadre d'une élection.
C'est pas le dit qui a parlé des
sociétés. Mélenchon joue un jeu très dangereux.
Non, moi d'abord, je suis contre évidemment la censure qui est intolérable.
C'est le PS qui le dit.
Oui, mais bon, le PS ne représente que lui-même, 6%, donc c'est bon, on ne veut plus entendre parler de lui. Ensuite, le PS, effectivement, prend une initiative qui est relayée par d'autres partis, pas l'oublier, il n'y a pas que le PS qui en parle, puisque le gouvernement aussi a mis son veto, on va dire, le veto, on peut en parler. J'allais dire que Rima Hassan nous dira la semaine prochaine ce qu'elle en pense, que je vais la rencontrer. Et j'ai rencontré, il y a encore 3 jours, Zineb Razoui qui n'est pas vraiment de gauche, on sans doute, et qui a dit, vous écoutez bien, c'est un vrai scoop que je vous donne là, parce qu'on l'a diffusé, mais en direct à la radio, qui a dit, je vais cette année voter pour la LFI. Non ouais. Pas qu'elle aime la LFI. Elle dit, c'est le seul parti qui a pris une position équilibrée sur la question palestinienne par rapport au fait qu'il faille arrêter ce bain de sang. Et sur cette base-là, je vote pour eux. Donc, j'ai envie de dire simplement, pour Rima Hassan, on lui a mis tout sur le dos, et on lui reproche d'avoir, la raison pour laquelle ils ont trouvé toujours un angle, c'est qu'elle a mis Free Palestine, enfin, je crois que c'est Free Palestine.
Le logo.
Avec toute la terre de Palestine. Alors, d'abord, la terre de Palestine a existé. Et elle n'existe plus. Donc quand toutes ces excités du bulbe sont en train de dire c'est inadmissible qu'il n'y ait pas Israël à la place de la Palestine, ils oublient qu'il n'y a plus de Palestine. Et qu'aujourd'hui, c'est Israël qui marche sur le droit international. Et donc Rima Hassan, qui a le droit de s'exprimer, et qui, si elle n'était pas française, serait une apatride parce qu'il n'y a pas de nationalité palestinienne, comme c'est 6 ou 7 millions de Palestiniens, eh bien elle a le droit de s'exprimer. Maintenant, il y a un bain de sang en Palestine, on estime qu'il y a à peu près entre 50 et 100 000 personnes qui ont été ou blessées ou tuées. D'accord ? Estimation basse, parce qu'évidemment, personne ne se vante de ses pertes. Mais il y a une chose est certaine, c'est qu'au bout de 7 mois de barbarie, de guerre totale, où on bombarde les hôpitaux, je le rappelle, où on bombarde les humanitaires, où on tue les médecins, les journalistes, où on s'autorise tout, ou les types qui font ça, il faut le rappeler à chaque fois parce que c'est oublié dans les médias, on est en train de soutenir une vermine d'extrême droite. On parle pas de la gauche, du centre-gauche ou de la droite, de l'extrême droite racialiste qui dit que les Palestiniens, et je le répète à nouveau, sont des animaux humains. La dernière fois qu'un dirigeant a dit quelque chose comme ça, il s'appelait Adolf Hitler et parlait de Untermenschen, des sous-hommes. Donc on ne peut pas accepter cela. Aujourd'hui, on ne défend pas Israël, on défend l'extrême droite israélienne qui fait ce qu'elle veut. Et pire encore, elle veut nous entraîner dans une guerre généralisée en attaquant, je rappelle qu'Israël a attaqué l'Iran, parce qu'on l'oublie, en bombardant l'ambassade d'Iran. C'est un acte de guerre. Donc maintenant, il faut se poser la question. Est-ce qu'on doit laisser ce fou dangereux continuer son action et essayer de censurer des gens qui sont contre cela? Ou est-ce qu'on va prendre une posture équilibrée comme l'était Chirac, d'ailleurs, à l'époque, ou De Gaulle, je ne sais, et revenir sur le terrain de la raison? On ne peut pas composer avec l'extrême droite.
Je sais, d'accord avec ce qui
c'est
dit.
Quand même grave,
ouais,
aujourd'hui.
Moi, je suis partiellement d'accord, parce que je pense que dans cette
partiellement
affaire...
D'accord.
Oui, mais parce que je pense que dans cette affaire, LFI, dès le départ, a fait une erreur fantastique, c'est de ne pas qualifier l'acte du 7 octobre de terroriste. S'il l'avait fait, aujourd'hui, sa parole serait beaucoup plus entendable. Et donc, et tout est parti situation. Moi, je l'ai dit à ce micro, je l'ai répété, je suis pour une solution à deux États. Sauf que, bien évidemment, je vois aussi la difficulté aujourd'hui. Je vois les effets de la colonisation. Je vois effectivement les crimes de guerre qui ont été commis par le gouvernement de Netanyahou depuis 7 mois.
Qualifier ça aussi, parce qu'il faut le dire, de terrorisme d'État. Ce sont des crimes d'État.
Oui, alors.
Et le terrorisme d'État, c'est Mitterrand quand il va flinguer le Rainbow Warrior, c'est quand on tire sur les hôpitaux.
Moi, je parle aujourd'hui de crimes de guerre. Je dis que le droit international, il est bon pour tout le monde, qu'il a été bafoué le 7 octobre, qu'il est bafoué depuis 7 mois, le début de la guerre, et que, bien évidemment, la seule façon pour Netanyahou de se maintenir au pouvoir, c'est d'entraîner le Moyen-Orient dans une situation de guerre totale. Et donc, la situation là, elle est extrêmement grave. Quand Netanyahou dit « je me réserve, Israël a le droit de se défendre », oui, enfin, c'est un piège grossier.
C'est quand même lui qui attaque.
Il est allé... taper
en Syrie,
une annexe d'une ambassade
consulat,
en Syrie,
consulat.
Et derrière, évidemment, l'Iran consulat. Que je ne porte pas dans mon cœur, le régime des Mollahs est un régime criminel, a répondu avec mesure, parce qu'il sait aussi ce qu'il risque. Donc, c'est un jeu qui est extrêmement dangereux. Donc, voilà. Mais, encore une fois, moi, je suis pour le débat. Mais je pense que, dès le départ, LFI a fait une erreur stratégique majeure. Voilà.
Hassan Barek.
Disons que, moi, j'aimerais revenir sur la brouille entre le PS et LFI. Et sur l'importation, comme vous disiez, du conflit au Moyen-Orient en France, bon, ce conflit s'importe partout aujourd'hui, hein, et tout le monde a quelque chose à dire sur cette affaire. Mais sur l'impact politique de cette crise aujourd'hui, et sur le fait d'avoir interdit à LFI de ne pas faire la conférence, je pense que c'est une erreur stratégique. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des phénomènes de mimétisme, comme disait René Girard. Donc on va forcément faire de LFI une victime. Une victime en direction de qui ? en direction d'un électorat qui est celui dans les banlieues majoritairement.
Pas que dans les banlieues.
Les Français majoritairement sont plutôt dans les banlieues, dans les quartiers populaires, puisque c'est cet électorat.
C'est non, c'est pas vrai. Qui pose, je suis pas d'accord.
Mais on parle qui pose, non, mais qui pose au fond problème, c'est ce qu'on reproche à.
Oui, mais c'est pas pour
Mélenchon.
Cet électorat qui a
alors,
fait ça.
Non, j'ai pas. Non, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a une bataille. En tout cas, il y a un enjeu aujourd'hui. Et dans les prochaines années, aujourd'hui, parce qu'on a de plus en plus des gens issus de la diversité, de gens, d'électeurs d'origine extra-européenne, hein, qui sont là, qui arrivent, et qu'aujourd'hui, c'est un enjeu très important. Et LFI a fait le choix stratégique de miser tout là-dessus. Et aujourd'hui, le fait d'interdire cette conférence, c'est une erreur stratégique. Alors, la brouille, elle a commencé comment ? C'est que c'est un député PS, et je crois que c'est Jérôme Guedj, qui a dit, voilà, il y a un logo qui pose problème. Il y a donc un homme politique qui a réagi, c'est Xavier Bertrand des LR. C'est ça, d'accord. Xavier Bertrand s'est dit, bon ben voilà, ils vont se taper dessus, puisque évidemment, il y avait LFI, le PS, tout ça, c'était de gauche. Et donc, LFI a dit, bah, c'est à cause du PS qu'on en est arrivé là. Et maintenant, ça part dans tous les sens. Je pense que ça a été excessif.
Je voudrais qu'on fasse
c'est
un tour de table.
C'est pas le respect des résolutions de l'ONU.
Avant de retrouver le coin neuf, parce qu'on y est dans une minute à peine. Ce conflit au Proche-Orient, vous savez quoi ? Le Hamas qui fait une déclaration qui juge légitime et méritée l'attaque de l'Iran contre Israël. Mais surtout, le monde, face à cette attaque de l'Iran sur Israël, disons-le clairement qu'aujourd'hui, Israël réfléchit aussi à une riposte. Hein, même si Joe Biden a clairement exprimé le sentiment de ne pas y aller. Alors, messieurs, un tour de table avant de retrouver le quoi de neuf, justement, Pierre-Henri.
Oui, ben.
Sans s'étaler, parce qu'effectivement.
J'espère que Biden, pour y compris des raisons électorales, peu importe ses raisons, retiendra la main d'Israël, parce que derrière, c'est l'embrasement.
Et je le rappelle, hein. Téhéran n'exclut pas, évidemment, si.
Ben, évidemment,
ils vont le faire.
Abdeslam Itach.
Non, mais on voit bien aujourd'hui le narratif sioniste hein, qui prétend dire que Israël veut se protéger, alors que Israël c'est cet État génocidaire et assassin qui bombarde ce consulat et ensuite l'Iran qui se défend sur la résolution sur l'article 51 sur son droit de réponse, son droit de se défendre frappe l'entité sioniste. Et pour rappel, vous avez d'un côté 16 morts et de l'autre côté zéro. Et bien sûr, on va vous parler de la disproportion des drones et ainsi de suite. Et vous voyez bien qu'il y a un problème dans le traitement de l'information aujourd'hui.
Gamal Abina.
Simplement, il faut être très clair sur un point. D'abord, c'est Israël qui est attaqué. Il faut qu'on arrête le pipeau. Et ça, Israël attaque tout le temps. Ils attaquent en Syrie, violent l'espace aérien, au Liban, en Irak, partout. Donc Israël qui joue la victime quand elle attaque tout le temps, ça va. Israël qui a attaqué en 85 la Tunisie, on s'en souvient.
Oui, et qui viole l'espace.
Il faut, voilà. Donc ça va 5 minutes la plaisanterie. Moi, je dis simplement de dire que le Hamas dit ça, il est logique. Il dit ça d'abord parce que c'est un allié pour commencer, mais surtout parce que effectivement, on n'a pas entendu les condamnations unanimes du monde entier après le bombardement de l'annexe de l'ambassade, qui est une représentation diplomatique, on le veuille ou non. On n'entend pas ce genre de condamnations. On n'entend pas les condamnations quand ils assassinaient les chercheurs et les scientifiques iraniens, ou quand ils font sauter les bombes au Liban. On n'entend jamais ça. À chaque fois qu'Israël bombarde le Liban, ça n'intéresse personne. Donc il est logique qu'ils aient répliqué, et maintenant c'est Israël de réfléchir.
Le coin neuf, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et après, je vous retrouverai bien sûr le coin neuf avec, comme chaque jeudi, c'est Pascal Boniface. Bonsoir Pascal.
Bonsoir Adil.
Géopolitologue, mais surtout le directeur fondateur de l'Institut Léris. Je vous lance justement avec votre billet d'humeur, comme chaque jeudi, l'Iran-Israël. Allons-y.
Oui, je viens d'entendre le débat qui se passe. Alors effectivement, rappelons les faits. Au départ, c'est Israël qui bombarde une représentation diplomatique iranienne à Damas, tuant de nombreux responsables, et donc c'est tout à fait illégal, contraire à toutes les conventions internationales, etc., etc. Ensuite, l'Iran décide de réagir, parce que leur crédibilité est en jeu. S'ils ne réagissent pas, c'est qu'ils veulent finalement admettre qu'Israël peut faire des choses qu'eux ne peuvent pas faire. Donc ils réagissent, mais ils réagissent, je dirais, avec prudence. Ils avertissent les États-Unis qu'ils vont réagir. Donc les États-Unis mettent un système de défense avec des pays arabes, des pays européens, et en fait les 300 missiles, drones, balistiques, etc. qui partent, en fait aucun n'atteint sa cible, tous sont abattus. Et l'Iran dit, ben voilà, c'est pour solde de tout compte, on arrête maintenant, et il ne faut pas réagir. Mais en fait, cette attaque à la fois a permis à l'Iran de rétablir sa crédibilité, mais en même temps à servir Israël, parce que on a vu, ce qu'on a vu, c'est que s'est mis en place une coalition, non seulement avec les États européens, mais aussi les pays arabes, qui étaient finalement très inquiets de l'Iran. Et donc, on a oublié ce qui se passe à Gaza, il y a une coalition qui s'est formé autour d'Israël pour défendre Israël avec les pays européens, avec la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Les pays européens ont décidé de sanctions contre l'Iran alors qu'ils n'ont pas été attaqués, que c'est un pays ami, mais que, et ils n'avaient jamais même pas condamné l'attaque israélienne sur le consulat à Damas. Et donc, en fait, pour Netanyahou, on lui a demandé de ne pas réagir trop fortement de peur d'un embrasement, ce qu'il a accepté de faire. Et finalement, pour l'instant, il sort gagnant, parce qu'on ne parle plus de Gaza. Des pays arabes soutiennent Israël indirectement. Les pays européens font des sanctions contre l'Iran et n'ont jamais pris de sanctions contre Israël pour ce qui se passe à Gaza, alors qu'on pourrait un peu se poser la question quand même. Et donc Netanyahou apparaît comme un modéré qui a calculé de ne pas réagir trop violemment par rapport à l'Iran, ce qui peut paraître pour le moins paradoxal, c'est un euphémisme évidemment, par rapport à ce qui se passe à Gaza. Donc, voilà. Et là, pour moi, la grande erreur de l'Iran, c'est de continuer à faire peur aux Saoudiens, aux Émiratis, au lieu d'essayer de se rapprocher d'eux. En fait, les Houthis attaquent tous les navires qui passent en mer Rouge. Alors, bien sûr, c'est des navires qui sont liés à Israël, mais les Saoudiens, les Émiratis pensent qu'eux-mêmes sont visés. Et donc, la peur que suscite l'Iran pour l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis l'emporte et fait que ces pays, finalement, préfèrent soutenir Israël plutôt que de s'attaquer à Israël et acceptent de participer à de fait, à une coalition anti-iranienne.
Merci, mon cher Pascal Boniface. À la semaine prochaine, sans faute.
Avec plaisir.
Merci à vous. Géopolitologue, je le rappelle, le directeur fondateur de l'Institut Leris. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, mon cher ?
Ce n'est pas les pays, ce sont les dictateurs. Ce sont juste eux, ils ne reprennent pas leur peuple.
Hassan, Damo ?
Assez court, je dirais que si on observe un peu ce qui se passe au Moyen-Orient, aujourd'hui, tous les acteurs sont d'accord. Que celui qui pose aujourd'hui problème, c'est M. Netanyahou.
Merci à vous, merci Pierre-Henri, merci Abdeslam Itach, merci à Hassan Barak, merci à Gamal Amina, merci à Solal à la réalisation, c'est Bilal Edman et Time Sport, Vanessa ce soir avec Confidence, demain Kim, à demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.